Différentes solutions qu'on a imaginées en fait par rapport aux problématiques qu'on avait sur place. Donc pour vous présenter un petit peu rapidement le système éducatif malien. Donc on a les écoles qui sont, on va dire, l'enseignement, la forme d'enseignement la plus classique. Oui. Ok. Voilà, pour vous présenter un petit peu le contexte dans lequel on travaille. Donc au Mali, il y a d'un côté ce qu'on appelle l'enseignement formel qui va correspondre à l'école telle qu'on la connaît ici, c'est-à-dire salle de classe avec un programme et des professeurs, qui rencontre un certain nombre de problèmes puisqu'il y a un énorme manque de moyens, donc des classes surchargées. L'effectif moyen d'une classe, c'est 70 élèves. Voilà, donc qui rencontre un certain nombre de soucis. Et le secteur sur lequel on a travaillé en premier, qui est ce qu'on appelle l'enseignement non formel. Donc ce qu'on appelle le non formel, c'est tout ce qui est fait à côté de l'école par différentes associations. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'il y a à peu près un tiers des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, mais il y a un grand nombre d'associations qui vont essayer de faire de l'alphabétisation pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir y aller. Donc le premier secteur sur lequel on a travaillé, c'est le secteur non formel. Et plus particulièrement, c'était les associations qui s'occupaient de tout ce qui était enfants des rues. Il y a énormément de problèmes d'enfants, en fait, soit des enfants des rues, soit des enfants qui ne peuvent pas vivre dans leur famille pour une raison ou pour une autre au Mali, parce qu'il y a eu des violences, parce qu'il y a eu différents conflits, et qui se retrouvent dans Bamako, et donc qui sont recueillis. Et en fait, c'est des associations donc, qui accueillent entre 10 et 50 enfants en général. Et souvent, la plupart de ces enfants, justement, font partie de ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et l'intérêt d'amener un petit peu des logiciels éducatifs, c'est qu'on a constaté que dans ces centres, les enfants ont des groupes de niveau très, très hétérogènes. Donc, justement, le fait d'avoir accès à de l'informatique éducative, c'était aussi une possibilité pour eux de pouvoir travailler un petit peu. Donc, il y a des cours qui sont menés d'alphabétisation dans ces centres. Mais justement, ceux qui ont plus de difficultés, ça leur permet de repasser un peu sur l'ordinateur, de refaire les exercices. Donc voilà, de pouvoir travailler un peu plus individuellement. Donc il y a différentes tentatives qui avaient été faites pour amener des logiciels éducatifs. Donc ensuite, pourquoi, quel est l'intérêt de, qu'est-ce que peut apporter le logiciel libre dans cette démarche-là? Alors la première problématique où le logiciel libre était très utile, c'est la problématique de la langue. Puisque la plupart des logiciels éducatifs existants, enfin même tous, sont dans les langues des enfants, soit d'ici, soit des États-Unis, mais c'est dans les langues, on ne trouvait pas de logiciels dans les langues des enfants en Afrique. Donc, pour vous donner un petit peu la situation linguistique au Mali, le français est la langue officielle, c'est-à-dire ça va être la langue de l'administration, de la télé, et majoritairement, la langue, dans la majorité des écoles, c'est encore en français qu'on enseigne. Cela dit, si on regarde, en fait, le français est parlé par à peu près 15% de la population. Ça veut dire qu'on a en fait beaucoup d'enfants qui apprenaient à lire dans une langue qu'ils ne comprennent absolument pas. On a le Bambara qui est la langue, on va dire, un petit peu majoritaire au Mali. Et si on regarde un petit peu les résultats entre les écoles qui sont en pédagogie dite convergente, c'est-à-dire en pédagogie bilingue, et les résultats des écoles qui sont, la majorité des écoles qui sont encore en français pur, et bien on voit tout de suite qu'il y a une différence en termes de réussite qui est assez, assez nette. Et l'autre problématique aussi que posait le français, c'est qu'il est, maîtrisé de façon très différenciée par les hommes et les femmes. C'est-à-dire que c'est pour plein de raisons culturelles, en fait, les hommes sont plus poussés vers le français et moins les femmes. Bon, c'est le cas dans beaucoup de cultures patriarcales. Donc, si on s'appuyait sur le français, on savait qu'on allait encore plus désavantager les filles par rapport aux garçons. Donc, l'intérêt, justement, de passer par du logiciel libre, c'est que ça a permis, déjà, dans un premier temps, de reprendre des logiciels existants ou d'en développer et d'utiliser le Bambara, qui est la langue locale et donc qui a permis de permettre aux enfants de pouvoir travailler sur ordinateur, mais dans leur langue. Ça, c'était déjà le premier intérêt du logiciel libre. Alors, donc ensuite, voilà un peu la démarche dans laquelle on était. Essayer d'aider l'apprentissage de la lecture. montrer aussi un petit peu que les langues locales, elles peuvent justement fonctionner sur ordinateur, parce qu'il y a aussi souvent l'enseignement en langue maternelle des enfants, il est perçu comme quelque chose d'un petit peu archaïque, les gens se disent « mais non, mais regardez, tout est en français, ça sert à rien de leur apprendre ces langues-là ». Donc c'est pour leur montrer que justement, non, ça peut être aussi des langues modernes et qu'on peut très bien faire fonctionner des logiciels éducatifs avec ces langues-là. Et après, les autres problématiques pour lesquelles le logiciel libre ont été intéressants, c'est notamment de s'adapter à la réalité du terrain. Parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui ont essayé d'amener des ordinateurs en Afrique. Souvent, malheureusement, c'est des copier-coller de solutions qui fonctionnent en Europe, mais qui sur place, on se rend compte pour diverses solutions qu'il y a plein de problématiques qu'on n'a pas ici qui font que ça fonctionne pas. Une des problématiques, par exemple, qu'on a eu nous, au début, on récupérait des ordinateurs auprès d'entreprises, donc on les transportait jusqu'au Mali, et en fait, on les amenait dans les centres qui s'occupaient de ces enfants-là, donc préchargés avec du logiciel éducatif. Et le problème qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, un ordinateur sur place, ça représente énormément de valeur. C'est-à-dire quand même 2-3 mois de salaire local, le prix d'un ordinateur. Donc les adultes avaient énormément de réticence à laisser les enfants les toucher. Donc ils n'ont pas été détournés, ils sont restés dans les locales de l'association, mais ils ont été utilisés par les adultes et non par les enfants. Donc sur l'objectif éducatif, on a là-dessus ça a un petit peu raté. Et donc justement après, on a le fait de passer par du libre, on a pu passer par d'autres matériels que l'ordinateur pérenne aussi, puisque des fois on amène des ordinateurs sous Windows et puis on va se retrouver avec beaucoup de problèmes de panne, de virus, de plein de solutions. Donc des fois, si on peut aussi avoir du matériel qui ne tombe pas en panne, c'est encore la meilleure garantie que l'action qu'on fait ait un impact un peu plus durable dans le temps et reproductible pour qu'après, une fois qu'on a fait le travail, toute personne puisse le réutiliser et que d'autres personnes puissent se réapproprier le travail et que ça puisse profiter au maximum de monde possible. Donc, la solution qu'on a choisie, en fait, c'est un petit projet qui s'appelle Malinux Télé. En gros, il y a eu 4 choix techniques importants. D'abord, on a décidé de fonctionner sur télévision. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a constaté qu'on avait un échec, en fait, avec les ordinateurs classiques qui étaient vraiment perçus comme un objet très luxueux pour que les adultes acceptent de les laisser dans les mains de ces enfants. Par contre, tous les centres qui accueillaient ces enfants des rues avaient une télévision que les enfants avaient le droit d'utiliser. Donc, on a utilisé un Raspberry Pi, petite carte électronique, et qui était déjà qui coûte très peu cher, mais qui en plus a l'avantage d'avoir une sortie télé. Donc, ça permet de faire afficher les logiciels sur la télé. Et après, on a un petit peu hacké les logiciels éducatifs qui sont à l'intérieur pour notamment optimiser l'espace d'affichage. On a enlevé les barres de titre, on a enlevé les barres de menu, on a essayé d'enlever un certain nombre de choses pour que vraiment sur l'écran de la télé, qui a quand même une zone d'affichage très réduite, on puisse avoir toute l'activité, l'essentiel de l'activité éducative. Ensuite, un système dédié à l'éducatif, justement pour que on ne puisse faire que de l'éducatif avec, pour pas que ça soit réutilisé pour d'autres choses. On a essayé justement de hacker au maximum de tous les logiciels qui étaient installés dessus, soit pour essayer d'introduire des mots en langue locale, soit pour changer un petit peu les images, changer un petit peu les fonds, pour que, après tout, nous, les logiciels qu'on a ici représentent les enfants qui utilisent des logiciels éducatifs ici, voient des scènes de leur vie quotidienne. Il n'y a pas de raison que si on amène des logiciels en Afrique, ils n'aient pas le droit de voir quelque chose qui représente ce qu'ils vivent eux, quoi. Et ensuite, le dernier choix qu'on avait fait, c'était un système qui est en lecture seule, qui fonctionne un petit peu comme un live CD. Ça, c'est pour assurer la pérennité du système. Ça permet d'une part, Raspberry Pi fonctionne avec une carte SD, donc plus on écrit dessus, plus elle risque de mourir rapidement. Et ensuite, ça permet d'éviter tous les déréglages. Parce que un des problèmes qu'on avait aussi avec les ordinateurs, c'est qu'assez rapidement, il y avait des options qui étaient changées dessus. Malheureusement, c'est vrai que sur place, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à les réinstaller. Et souvent, on arrive avec une machine qui, au bout de quelques mois, ne marche plus parce qu'il y a eu quelques petites options qui ont été changées. Donc là, on a décidé de fonctionner un peu plus sur le modèle d'une console, modèle d'une console de jeu. Mais on a remplacé les jeux par de l'éducatif. Donc c'est un système, en gros, qui est en lecture seule, qui bouge pas. Mais par contre, il suffit de le brancher, ça marche. Voilà. Pour les gens qui n'ont jamais vu une carte Raspberry Pi, voilà un petit peu ce que ça donne. Nous, on l'a monté dans un boîtier en bois parce que, du coup, ça permettait de faire fonctionner, de faire travailler les gens sur place plutôt que d'acheter du plastique. Et justement, ça cassait un peu cette image de petit ordinateur. Ça fait un petit boîtier en bois qu'on branchait sur la télé. Et puis voilà, on trouvait ça assez, assez sympathique. Donc après, au niveau du contenu qu'on a mis dessus, il y a des logiciels que tout le monde connaît ici. J'ai compris, TuxPaint, TuxMath, qui sont un petit peu les classiques de l'éducatif libre. Et puis, il y a d'autres logiciels qu'on a un petit peu pris spécialement pour ça. Donc, il y a des activités en fait éducatives, donc pour apprendre à lire, qui correspond un petit peu au programme de première année en lecture, qui ont été développées en langue locale, grâce à l'aide des enfants du centre qui m'ont aidé pour l'enregistrement des voix. Et puis dessus, après, on a TuxMath, j'ai compris, mais on a mis aussi, voilà, par exemple, Wikidia, qui est une encyclopédie normalement pour enfants, qui est sur Internet, qui a été dumpée. Et le fait que ce soit du contenu libre nous autorisant de le remanier de manière à ce que ça puisse rentrer sur la carte SD et que ben, les enfants puissent y avoir accès. Alors, Wikidia avait deux avantages. D'abord, elle pèse que 400 mégaoctets par rapport à Wikipédia. Et ensuite, le contenu est rédigé dans une langue vraiment accessible par les enfants. Voilà. Et puis TuxPaint, qu'on a voilà, des différents logiciels, mais qu'on a un petit peu hacké pour... rapidement pour mettre du contenu local, un peu plus local, voilà, à l'intérieur. Donc voilà, les personnes qui ont participé à ce projet, donc l'association Bilou Toguna, qui en gros encadre le projet et permet de récolter des dons et voilà, va jouer un petit peu un rôle d'encadrement administratif du projet. Des enfants, notamment un enfant du centre qui m'a aidé pour la voie des activités. Et puis après un petit peu toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'enfant en danger au Mali qui vont donner différents contacts pour équiper différents centres sur Bamako. Donc au niveau de ce que ça a pu faire pour l'instant, il y a 17 centres qui ont été équipés. Voilà, de ce petit appareil. Le système qui a été mis en téléchargement libre sur le site, c'est du GPL comme il se doit, avec l'idée dans la suite d'essayer de former des gens à construire le petit boîtier pour que ça puisse générer un petit commerce local et que l'initiative puisse continuer à évoluer d'elle-même. Et ensuite, ce qui a été intéressant, c'est que ça a permis de nouer pas mal de liens avec les personnes qui travaillent sur l'éducation là-bas, et de montrer que justement, que si on peut utiliser les langues locales, on peut l'utiliser sur ordinateur et on peut faire des choses assez, voilà, assez modernes, qu'on n'est pas du tout bloqué à une offre commerciale des logiciels éducatifs classiques que les gens connaissent habituellement, mais qu'on peut aussi faire ses propres choses, les faire évoluer. Et ça a été l'occasion en fait de montrer un petit peu ça, qu'avec le libre, on peut vraiment faire des choses qui soient adaptées à ce qu'on a besoin. Voilà. Et ça a donné lieu à quelques petits tests dans les écoles publiques. C'est des écoles qui avaient été équipées notamment par des ONG et les ordinateurs, il y avait plus de connexion. Ils s'en servaient un petit peu d'accès à Internet. La connexion Internet était tombée en panne. Alors, ils donnaient quelques cours de Word, Excel dessus, mais quelques fois dans l'année, et le reste du temps, les ordinateurs ne servaient pas. Il y avait une personne qui était payée pour s'occuper de la salle, et la salle était très très peu utilisée. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, est-ce qu'on peut pas amener des logiciels éducatifs? Et comme les gamins sont généralement à 70 par classe dans ces écoles-là, faire en sorte, une heure dans la semaine, ils passent, ils sont deux sur un ordinateur, l'ordinateur les corrige un petit peu, il y a le gérant de la salle qui est là pour eux, pendant ce temps-là, le prof peut gérer une plus petite classe. Voilà, essayer de mettre un petit peu en place des choses dans ces écoles-là. Voilà, et donc là, pour la poursuite des projets, nous, on cherche à continuer à équiper les... On est en recherche de financement pour continuer à équiper les centres sur Bamako. Comme il y en a une cinquantaine, qu'on en a équipé 17, on voudrait pouvoir équiper les autres. Bon, c'est pas un gros budget, c'est 30 euros à peu près, entre le Raspberry Pi, la boîte en bois, tout le matériel. Essayer de faire en sorte que ça puisse se développer tout seul, localement, si possible. Après travailler un petit peu avec les écoles, essayer d'équiper maintenant des écoles, puisqu'on a eu des partenariats qui sont créés au fur et à mesure que le projet s'est développé, notamment avec l'IEP, qui est l'Institut pour l'éducation populaire, qui font partie des gens qui militent un peu pour justement la réintroduction des langues locales à l'école. Et donc, il y a un travail qui a commencé à se faire avec eux, et on va voir si on peut pas soit amener des ordinateurs dans les écoles qui sont équipées de courant, soit il y a une version de Malinux qui est en train de se développer sur tablette, puisque la tablette a quand même un énorme avantage, c'est que c'est un appareil qui est très très peu consommateur. Donc, si on va en brousse, là où il n'y a pas de courant, ça permet d'équiper des salles de classe et puis d'avoir un panneau très très petit. Il y a aussi eu des projets un petit peu pas très adaptés sur le terrain où on amenait des milliers d'euros pour amener des groupes électrogènes, des panneaux pour amener des PC classiques en pleine brousse. Moi, ça me semblait un petit peu démesuré, surtout quand on sait que le salaire d'un professeur, c'est à peu près 80 euros le mois. Amener des milliers d'euros pour un système qui finalement, des fois marche, des fois tombe en panne et puis n'est pas entretenu. Voilà, donc essayer de trouver des solutions un petit peu plus... Voilà, basse consommation adaptée à ce qui se passe en campagne. Et voilà, en gros, un petit peu le projet. Donc, mais nous, après, bien évidemment, si des gens veulent soutenir, ils sont bien évidemment les bienvenus. Si jamais vous connaissez des entreprises qui auraient un parc à réformer, c'est-à-dire des machines qui ne servent plus, qui ont quelques années d'utilisation parce qu'ils veulent changer le parc, il y a l'ONG Bilutoguna qui peut les récupérer, faire un certificat de don. Ça veut dire que l'entreprise s'est acquittée de ses obligations de recyclage du matériel. La seule condition qu'on pose, nous, c'est de récupérer des machines qui soient dans un état décent, parce que l'idée, c'est pas de balancer des poubelles en Afrique. Mais voilà, si jamais vous connaissez des entreprises qui ont un parc à recycler, après, il y a un partenaire local qui est l'Institut pour l'éducation populaire, qui lui, après, va faire en sorte d'équiper les écoles avec, de former les enseignants pour qu'on puisse, justement, faire tourner du logiciel éducatif dessus. Et voilà un petit peu les. Et si jamais après il y a des gens qui veulent aussi, qui s'y connaissent un peu en programmation tablette, qui veulent échanger avec moi et participer au projet, bah, tout le monde est un petit peu le bienvenu là-dessus. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez un petit peu discuter de. Sur place. Alors, sur place, tu à quel niveau par rapport à ma. Aux ordinateurs sur les. Ben, il y a l'Institut pour l'éducation populaire, mais eux, c'est plus sur les écoles que les orphelinats. Et eux, ils sont déjà en partenariat avec un bon millier d'écoles sur place. Et du coup, quand on amène des choses, ils vont vérifier après ce qui se passe, est-ce que c'est utilisé, est-ce que ça fonctionne. Donc sur les écoles, oui, il y a un relais. Sur les orphelinats, pour l'instant, ça dépend un peu des équipes locales. Nous, on amène les appareils, on essaie de former un petit peu les équipes à l'utiliser. Et il y a eu des cas où c'était beaucoup utilisé, presque une fois par soir. Des cas où c'était utilisé une fois dans la semaine, et puis d'autres cas où les éducateurs ne les faisaient pas utiliser pour les enfants. Après, c'est un peu difficile aussi d'amener les choses et de forcer les gens. On ne peut pas forcer les gens à... Soit les gens, ils voient que ça les intéresse, ils vont l'utiliser, soit... Donc oui, bah, nous, après, si tu veux, de toute façon, on les amène dans des endroits où il y a des équipes déjà sur place et...